On peut rester dans nos préjugés, eux autres aussi, et l'Évangile ne passera pas. Mais on peut essayer de faire autrement. Et puis, c'était un peu le but de la présentation ce matin, d'essayer de s'ouvrir. Mais juste donc pour mentionner qu'il y a une occasion de contact, et puis de dire, est-ce que vous voyez bien ici? C'était peut-être pas si clair, le mauve sur vert, là, mais c'est la seule religion que dans ses textes sacrés, c'est déjà écrit dedans contre le christianisme. Et là, si on lit deux versets des ayahs du Coran, ça dit « Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. » Fait que là, il comprenait un petit peu qu'est-ce que les chrétiens disaient sur la divinité de Jésus-Christ, puis il dit « Ça, là, si tu dis ça, t'es un mécréant. » Et c'est déjà écrit dans le texte sacré, la parole de Dieu. Là, ça crée une difficulté sur l'identité de Jésus. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. C'est clair? C'est comme le péché le plus gros, impardonnable. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Puis c'est bien connu comme le péché de shirk. C'est le top du top. Ça, c'est sur l'identité de Jésus et on nie aussi son œuvre, l'œuvre de Jésus. On nie qu'il ait été crucifié. Et à cause de leurs paroles, là, il cite un petit peu dans le contexte des Juifs qui parleraient et qui diraient « Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. » Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Dieu a fait comme un petit tour de passe-passe, puis il a mis quelqu'un qui ressemblait à Jésus, mais ce n'était pas Jésus. Voyons donc, un prophète comme Jésus ne peut pas mourir crucifié. Fait que Jésus n'est jamais mort crucifié, mais enlève la crucifixion. Qu'est-ce qui reste du christianisme? Une religion. Il reste rien de la grâce. Ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. En voulant dire, vous connaissez rien, moi je le sais, Allah le sait, ils l'ont pas crucifié. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Fait que là, c'est un peu le contexte de la difficulté, et puis quand on regarde les pays qui sont fermés à l'Évangile, légalement, tu ne peux pas évangéliser dans plusieurs pays, tu ne peux pas légalement te convertir, c'est un pays comme la Mauritanie, c'est une république islamique et qui est fermée à l'Évangile. Puis tu as des branches militantes, Al-Qaïda, Boko Haram, Al-Shabaab, puis Daesh et tout ça, mais au-delà de ces complications-là, faut pas regarder aux circonstances. Puis quand je regarde un témoignage comme celui de Hussein, le Seigneur est capable. Faisons confiance. Laissons-nous pas impressionner par les difficultés. Peut-être, en parlant donc de l'immigration, puis d'une occasion, d'une porte ouverte pour nous autres, ça fait peut-être 50 ans là, qu'il y a un revirement, il y a quelque chose qui arrive, là, qui n'arrivait pas avant. Que là, des musulmans commencent à venir dans les pays occidentalisés. Ça a commencé en Afrique du Nord, là, qui venait en France, ou de Turquie, qui allait en Allemagne. Puis il y en a à peu près en Europe, 13 millions. Là, c'était en 2010, sont peut-être 23 millions maintenant. Il y a des étudiants universitaires, comme dans le cas ici, étrangers, qui viennent de pays musulmans, qui viennent étudier ici. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, sur 12 000 étudiants, il y a, je pense, 1 000-1 200 étudiants étrangers, comme, mettons, 10 % Plusieurs sont de pays chrétiens, mais plusieurs sont musulmans aussi. Donc, ils viennent étudier chez nous. Puis, il y a une accélération de l'immigration avec la crise des réfugiés syriens, l'immigration de plusieurs pays musulmans en Europe, en Amérique du Nord aussi. Donc, ça change la donne. Et comme je disais, là, depuis 1400 ans, c'est peut-être la première fois. Ou est-ce que là, ils viennent dans un pays puis qu'ils sont pas majoritaires? Ils viennent dans un pays occidentalisé et ils viennent sur notre terrain et que là, les deux populations se mélangent. Et je pense, tu sais, la destinée humaine comme ça, Dieu n'est pas indifférent face à ça. Puis il y a ce verset-là que c'était selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, que les peuples avaient livré Jésus. Ils connaissaient tout ça, puis organisaient. Oui, je sais, Satan est le prince de ce monde, mais Dieu est encore en contrôle. Et puis, dans cette histoire-là, le verset, c'était au sujet de Joseph, qui avait été envoyé en Égypte, vendu par ses frères. Et Joseph leur dit, « Non, 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 au-delà de vos manigances, Dieu était là. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et si on regarde ici, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Et de voir donc que dans cette transformation-là qui se vit présentement dans notre monde, où est-ce que plusieurs musulmans qui viennent ici au Québec, il y a aussi la main de Dieu. Comme dans le cas de Hussein, c'est beau de voir que la grâce de Dieu était là, puis il voulait, toi là, je vais te placer quelque part, puis je vais mettre sur ton chemin, j'ai un plan pour toi. Mais qu'il y a un plan aussi pour d'autres. Et c'est à nous à s'ouvrir les yeux et à collaborer avec ce plan-là. Fait que les changements qui se passent, c'est que eux autres, quand ils viennent ici, ils sont plus dans une majorité musulmane. Là-bas, leur pays pouvait être fermé. Ici, la porte est grande ouverte pour entendre l'Évangile. Ici, le problème de culture et de langue sont minimisés. Hussein, en venant aux États-Unis, a appris l'anglais. Et là, tout d'un coup, c'était plus facile de communiquer avec lui. Et puis, il devenait familier avec la culture. Et puis, c'est ça, le champ de mission qui déménage dans notre cour arrière, qui vient chez nous, à Trois-Rivières, et où est-ce qu'il y a plusieurs occasions de dialogue. Au Québec, il y a à peu près 300 000 musulmans, la plupart à Montréal. Comme chrétien évangélique, on est quoi, à peine 50 000? Fait qu'il y a beaucoup plus de musulmans même que des chrétiens évangéliques. Mais c'est une occasion. On peut rester dans notre cocon, c'est la tendance naturelle de l'Église. Mais on peut aussi voir là-dedans des occasions, des opportunités en accueillant ceux qui viennent nous voir. Fait que les gens qui viennent, souvent sont isolés de leur famille, de leurs amis. Puis ils viennent, ils étudient. Que je vois, mais des fois ils trouvent ça plate d'étudier. Puis là, ils aimeraient ça rencontrer du monde. Des fois ils se regroupent ensemble. Mais d'avoir des Québécois qui viennent leur parler puis qui leur ouvrent leur cœur, leur maison, ça touche beaucoup. C'est une grande occasion. Certains émergent d'une crise humanitaire. On va recevoir ici à Trois-Rivières là, des Syriens, mais c'était vraiment l'épreuve, là, le top, la détresse, qui viennent ici, ils ont besoin d'apprendre à s'intégrer dans une nouvelle culture, c'est compliqué, la langue est difficile, ils sont déjà tout shakés de tout ce qu'ils ont vécu là-bas et qui doivent s'intégrer à une nouvelle culture. Ils sont séparés aussi de la pression de leur groupe culturel, qui leur imposait une stricte adhérence à l'islam. T'as pas le choix. Mais là, ici, ils peuvent écouter, ils peuvent entendre, ils pourraient accepter aussi. Tout le contexte a changé. Et ils sont réceptifs à la gentillesse, comme on l'entendait. Tu sais, j'ai quelqu'un de gentil, de correct. « Hey, tu veux-tu un service? Tu veux-tu un livre? Tu veux-tu, veux-tu que je t'aide? » Ah, ouais. Puis là, ça touche profond. Là-bas, l'hospitalité, c'est très fort. Dans l'islam, c'est une valeur importante. Et puis c'est ça, c'est des étrangers sur des terres étranges qui ont faim d'amitié. Puis Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme le bon samaritain. Et là, ça pose une question, tu sais, est-ce que je vais l'aimer? Est-ce que c'est juste une œuvre humanitaire? Que je me dépense là-dedans, là, puis j'annonce pas l'Évangile. Non, non, il faut que j'annonce l'Évangile. Est-ce que j'ai le droit de l'aimer, juste pour être smart? Sans ficelle, sans élastique, sans attendre en retour une ouverture pour l'Évangile. Il y a ici le SANA, le service d'accueil pour les nouveaux arrivants. Ils vont commencer un nouveau service, le jumelage. Et puis, Yvan Soisa, qui est un chrétien, il m'expliquait, on n'a pas de subvention. Avant, on avait ce programme-là, mais on avait des subventions gouvernementales. Mais là, on n'a pas. Il faut simplement des gens de bonne volonté qui viennent. Et puis dans le service, c'est de 2 à 5 heures par semaine qui vont accompagner des familles. Des fois, c'est pour les amener au médecin, au docteur, les aider pour l'école. Des fois, c'est les aider pour passer leur cours de conduite. Des petites affaires comme ça, le fun, dans le fond, et qui, pour eux autres, fait beaucoup. Puis il dit, on te jumelle avec une famille, puis là, tu vas apprendre à les connaître, puis tu pourrais développer des liens d'amitié avec eux. Et puis ça, ben, on n'a pas d'argent à donner, fait qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde qui vont se présenter. Mais dans le fond, je pense que pour nous, les gens d'Église, c'est comme une occasion en or d'aller là-bas et les aimer. Le Seigneur dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Est-ce que c'est nécessairement des œuvres conditionnelles à annoncer l'Évangile? Non, c'était des bonnes œuvres. Les gens le voyaient, c'était pas nécessairement envers eux. Mais là, j'ai vu, « Hey, le voisin, regarde, il se promène avec un drôle de monsieur. » Puis il s'en va les reconduire. « Ouais, il les reconduit à Québec, même, pour aller voir un docteur. » Ah, c'est spécial. Les gens voient vos bonnes œuvres. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, » c'est des chrétiens, eux autres. C'est une secte. C'est des baptistes. Là où ils vous calomnient comme vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. L'histoire de Dorcas, hein, Tabitha, ce qui signifie que Dorcas, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Est-ce que c'était toujours conditionnel? Si tu écoutes mon plan de salut, je te donne des vêtements. Sinon, tu n'as rien. Non. Elle en faisait librement. C'est une façon de représenter Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, qui allait de village en village faisant du bien, guérissant les malades, qui était sensible aux besoins. Tu sais, ma fille est morte, viens tout de suite. Il lâche ses affaires, il dit, OK, je m'en vais pour ta fille. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il s'attend à ce qu'on ait des bonnes œuvres aussi. J'avais lu un petit peu en lisant sur ça, il y avait l'histoire d'une madame qui avait accueilli comme ça, puis une musulmane. Et puis, elle l'aidait beaucoup, elle l'avait hébergée, elle lui présentait l'Évangile souvent. Et puis, le gars, il expliquait, il dit, quand que la madame est partie, la musulmane, elle a dit à la chrétienne, elle dit, je t'haïs. Puis je suis tanné d'entendre parler de ton Jésus. OK. Mais la fin de l'histoire, c'est que la madame, oui, était tannée d'entendre parler, mais par après, ça l'a touchée pareil. Elle a repensé à tout ce qu'elle avait fait. Elle m'a aidé. Et puis, elle est venue au Seigneur à cause de ce témoignage d'amour-là. Donc, la madame en question, là, elle n'avait jamais été à l'école biblique. C'était pas une spécialiste de l'islam. Puis, elle a juste aimé, ouvert son cœur, partagé l'Évangile comme elle pouvait. Ça a mal viré, mais le Seigneur a mis sa main dessus. Non. Ça l'a porté fruit. Donc, c'est sûr, moi, ça m'avait choqué en lisant cette histoire-là, mais c'est comme une exhortation. Ouvre ton cœur à l'étranger qui vient chez toi. Et que le Seigneur, par ce moyen-là là, qui se passe, ça fait, comme je disais, ça fait 1400 ans qu'on n'a pas cette opportunité-là, depuis la fondation de l'islam, d'en rencontrer autant dans notre pays. Et puis, juste pour dire aussi, il y a une méfiance un petit peu, comme aussi, c'était fait avertir, convertis-toi pas, fais attention. « Ô les croyants, c'est dans le Coran ça, directement, ne prenez pas pour alliés ou pour amis les Juifs et les chrétiens. Hein? » Tu pars déjà avec une prise ou deux. « Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. » Ça, c'est, il y a une méfiance, mais il y a de l'espoir aussi. Et donc, c'est ça un petit peu le but, là, je ne parlerai pas bien plus longtemps, mais il y a des moyens, des pistes. Et un espoir, comme dans la même sourate, ça dit, tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs, c'est nous, on associe à Dieu Jésus. Eux autres pensent que c'est la Trinité, c'est Dieu, le Père, Marie et Jésus. Donc, les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent, nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Déjà à ce moment-là, du temps de Mohammed, il y avait des vrais chrétiens que lui disait non, il y a une différence. Il y en a qui disent, nous sommes chrétiens, puis c'est pas pareil. Eux autres, ils nous aiment. Donc, là, on aurait eu le témoignage, mais on l'a déjà eu. Et puis, il y a une approche par des points communs. Là, je saute un petit peu parce que ça, on l'a déjà fait. C'est de rechercher donc des points communs, de partager l'Évangile à partir de croyances communes enseignées par le Coran et reconnues par tous les musulmans et les chrétiens. Il y a beaucoup de points communs. Comme par exemple le fait que Jésus est né d'une vierge. Puis dans le Coran aussi, c'est la seule personne à être née d'une vierge. C'est reconnu comme ça. Il y a des chrétiens libéraux qui ne reconnaissent pas ça, mais les musulmans le reconnaissent. Que Jésus est le seul sans péché. Jésus est le seul qui soit monté au ciel auprès de Dieu. Pour les musulmans, Jésus, le prophète, est présentement au ciel auprès de Dieu. À l'heure actuelle dont on se parle, pour eux autres, il est là. Et pour eux autres, il va revenir. Et pour eux autres, il va revenir pour juger le monde. Wow! Il y a des problèmes, mais il y a des belles occasions. Où est-ce qu'il y a une certaine connaissance de Jésus qui n'est pas fausse, mais qui est incomplète et qu'on peut utiliser comme piste d'approche. Adam et Ève ont péché et ont été couverts d'une peau d'animal pour cacher leur honte. Ils ont été revêtus d'un vêtement de justice, comme Hussein parlait. Et puis Clayton avait pris cette approche-là de lui présenter par Adam et Ève, justement, le chemin de la grâce pour un fautif, pour un pécheur. Il y a eu des sacrifices expiatoires que Noé a fait, Abraham a fait. Abraham a sacrifié son fils dans l'islam. C'est connu aussi. Et le ramadan, à la fin, les Eid al-Fitr, c'est pour célébrer, c'est tout seul-là, cette fête-là, c'était pour célébrer le geste qu'Abraham avait eu, le vrai croyant. Donc, Abraham est là aussi, il y a un sacrifice qui est là, mais ils ne savent pas ce que ça voulait dire, ce sacrifice-là. Et Moïse aussi, avec tout le culte, les sacrifices et tout ça, offrait des sacrifices. Si on prend un verset, OK, puis on va faire ça rapidement. « Aux gens du livre, en parlant des chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas d'Allah que la vérité. Ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. » C'est beau, c'est final, c'est juste un messager. Exagérez pas. « Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc à Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. » Hein, ça part-tu du christianisme ou non, ça? Directement en confrontation. Puis quand tu lis ça, tu te dis, ouais, c'est décourageant. Mais reprenons le même verset, puis là, je vais souligner d'autres mots qui sont là-dedans. Il l'appelle le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager. Sa parole, il dit pas une parole là, que lui a apportée, puis Moïse en a apporté une aussi, puis Noé aussi. Non, non, c'est sa parole. Pas une parole, sa parole. Oh, OK. Un souffle de vie venant de lui, dans le fond, et plusieurs musulmans arabes le comprennent comme ça, c'est un esprit venant de Dieu. L'esprit de Dieu. OK. Et puis là, c'est de dire, écoute, attends une minute, là, il y a plusieurs mauvaises compréhensions, mais en passant, OK, c'est ça, le Messie, ça arrive 11 fois, et c'est seulement pour Jésus. 11 fois dans le Coran, que c'est le Christ, qui veut dire la même chose que le Messie, 11 fois que ça vient, et juste pour Jésus. Sa parole, Trois fois. Des fois, il parlait de Yahya, Jean-Baptiste, dit que c'était qu'il y a à peine une parole en concernant Jésus. Ça parle trois fois seulement pour Jésus. Un souffle de vie, c'est-à-dire Esprit de Dieu, deux fois et seulement pour Jésus. Et le sens de ces termes, les trois termes ici, n'est pas expliqué dans le Coran. Ils sont d'origine juive et chrétienne. Quand tu leur demandes, qu'est-ce que ça veut dire le Messie? Comme si je vous demandais, qu'est-ce que ça veut dire Québec? Québec. Québec. Québec, c'est la ville, la province. Oui, mais d'où ça vient, Québec? C'est beau. Québec. Ça vient d'où? Hein? Un mot montagnais qui... Québec, peut-être. Hein? En voulant dire débarque. Bon, c'est une hypothèse. C'était peut-être aussi un mot iroquois qui voulait dire que là où le fleuve se rétrécit. Fait que, bon, il y a des toutes sortes d'hypothèses, mais en voulant dire, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit, mais eux autres aussi, là, c'est comme Jésus-Christ, tu sais, Jésus-Christ, je veux dire Christ, c'est beau, des fois, hein. La plupart des Québécois ne savent pas ce que ça veut dire, mais c'est comme, ils utilisaient ce mot-là, puis là, tu leur dis, t'as mis, ça vient de Dieu, là, selon toi, c'est dans le Coran, qui est la parole de Dieu, ça, c'est inspiré par l'ange Gabriel, ça vient directement de Dieu, puis il l'appelle le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire, le Messie? Les musulmans, ils ne savent pas. Parce que le Coran ne parle pas. Là, c'est de faire un peu... Mais si tu veux, parce que c'est dans le Coran, ce serait important pour toi de le savoir, hein? Ouais, ce que ça veut dire. Mais ça, c'est un mot qui venait, parce que Jésus, c'est un juif. C'est un mot qui venait des juifs. Veux-tu qu'on regarde dans la Bible que ça veut dire Messie? Ben oui. Puis souvent, ils sont intéressés. Moi, je trouve que c'est plus facile de témoigner à un musulman qu'à un Québécois, parce que lui, au moins, il veut en parler. Le Québécois, il n'est pas intéressé d'en parler. Tu ne veux pas aller loin. Et mais je sais pas que j'aime pas les Québécois, puis je pense qu'il faut les aimer, puis mais avec l'autre, il y a une longueur d'avance, au moins il veut parler. Et puis, bon, ça vient Mashiach, qui est un mot en hébreu, ça veut dire onction, oindre, Jésus loin, pour Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus loin. Et puis, ah, ok, loin, pourquoi qu'il loin d'huile comme ça, hein, quand il choisissait quelqu'un, puis il choisissait... qui enduit le Messie, le prince messianique, le roi d'Israël était loin, des souverains sacrificateurs étaient loin, Cyrus était loin aussi. Et non, mais ça vient de quelque part, cette affaire-là. Là, j'aurais pas le temps vraiment de le regarder, puis ça vient dans Daniel 9. Où est-ce que là, Daniel, il avait utilisé ça, pas un Messie, mais le Messie, il avait dit. Là, je veux juste quand même regarder cette citation-là. On va sauter un petit peu. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie. C'est pas un Messie, mais là, il y avait un terme absolu, défini, un article défini, le Messie. Jusqu'au Messie, au conducteur. Puis là, il savait qu'il allait avoir un chef, un roi, qui serait ce Messie-là, jusqu'au Messie. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et puis c'est à partir de cette prophétie-là que là, c'est resté comme nom, collé après ce libérateur-là, ce roi-là, glorieux qui viendrait, et puis dont Daniel parle, qui va être sur les nuées des cieux, semblable à un fils de l'homme, la domination, la gloire va lui être donnée, tous les peuples, toutes les nations et les hommes de toutes les langues de servir, puis là, de dire, regarde, quand tu dis... Issa, le Messie, le fils de Marie, c'est énormément plus qu'un prophète. C'est ça que ça veut dire, le Messie. Quand tu parles de Jésus, la parole de Dieu, ben là aussi, on a des versets dans la Bible qui expliquent qu'est-ce que c'est. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ces terrains communs, ces points communs-là qu'on a pour en arriver à partager l'Évangile. Comme approche, que je trouve vraiment intéressante là, comme façon de faire. Pas les aborder selon nos termes, notre compréhension, mais selon leurs termes. Ils ont déjà beaucoup, puis allons développer ce qu'ils peuvent avoir. On va terminer avec ça, et puis j'aimerais ça qu'on prie avant que les musiciens viennent. Tu sais, quand je pense au témoignage qu'on a entendu, ça prend du courage. Devenir chrétien, c'est pas pour les peureux. Pour lui, il va retourner en Mauritanie pour partager sa foi. comme disciple de Issa al-Masih. Il sait ce que ça coûte. Et ça prend du courage. Et peut-être que toi aussi, tu es dans la confusion. Et puis, tu vis dans un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Et puis, tu manques ce courage-là de t'engager, de le chercher comme lui pendant 3 ans qui a prié. Révèle-toi à moi, mon Créateur. C'est un encouragement à le chercher. Et puis, il y a eu son moment de décision. Quand il y a eu son rêve, il aurait pu dire, « Ah, oh, c'était juste un rêve, finalement. » Non, il a mis sa foi dans ça. Et tout ce que ça comportait comme risque. Et c'est un encouragement, si toi-même, tu ne t'es pas tourné pour faire ce pas-là, coûteux, c'est pas un pas de peureux, qui prend du courage. Je t'encourage à le faire ce matin même, à ouvrir ton cœur à Jésus. J'aimerais qu'on prie dans ce sens-là. Seigneur grand Dieu, on se tourne vers toi ce matin. Et je prie pour ceux qui t'ont pas reçu, accepté, qui sont dans la peur. Qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Fortifie-les, Seigneur. Et Seigneur, on te prie pour eux et donne-leur le courage de se tourner vers toi, de dire, Seigneur, ce matin, peut-être ça va être mon dernier matin, mais ce matin, je veux me tourner vers toi et te recevoir. Tu as un pardon merveilleux. Il va y avoir ce jour du jugement où est-ce que des foules seront présentes. Les livres seront ouverts. Il y aura 2 portes devant nous. Et le prince est là qui t'invite, qui tend le bras. Reçois-le. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Tu comprends tous mes questionnements, toute ma confusion. Laisse-toi trouver à moi. Et je veux te recevoir, rentre dans ma vie, invite-le comme ça, prie le Seigneur d'entrer, il veut rentrer, continue à le chercher. Et Seigneur, on veut te prier aussi pour Hussein, pour sa famille. C'est pas pour rien que tu t'es révélé à lui, tu veux t'en servir comme témoin. Fortifie-le Seigneur, utilise-le. Et concernant les portes ouvertes que tu places devant nous, avec l'arrivée de Syriens, avec des étrangers qui viennent ici, aide-nous à surmonter nos craintes charnelles, nos peurs de l'étranger, et d'aller au-devant, de s'ouvrir, de représenter Jésus-Christ à leurs yeux, de leur montrer de l'amour, de la gentillesse, d'ouvrir notre cœur, Seigneur. Fais ce travail dans nos vies, qu'on puisse être une église qui brille, qui ne soit pas un cocon fermé sur lui-même, mais qui brille vers le monde. À cause de Jésus. Merci d'être notre Sauveur. Sois loué, Seigneur. Sois adoré dans nos vies, dans notre Église ici. Sois le maître de nos vies. On veut te confier. On a besoin de se livrer à toi, de s'abandonner à toi plus entièrement, de te confier notre horaire du temps, de couper sur des choses, sur la télé qu'on aime pour aller vers ceux qui ont besoin. On te le demande dans le nom de Jésus, dans la puissance de son nom. Amen.